Laurent Lévy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Nanobiotix. On va revenir sur votre actualité et puis sur les perspectives de l'entreprise, hein, avec pour vous une augmentation de capital, avec l'entrée surtout d'un investisseur, donc Capital Venture International. Alors ça a pu surprendre, hein, clairement certains investisseurs, puisque même quand on s'était vu la dernière fois, d'ailleurs ici même, vous disiez que la situation de Nanobiotix était plutôt bonne, qu'il y avait de la visibilité, de la trésorerie, donc à la limite on ne s'attendait pas forcément à ce type d'opération. Ça fait partie de la vie des sociétés de biotechnologie de faire ce type de choix. Quelle était vraiment la raison pour vous de dire, à ce moment, donc en novembre 2014, hein, même si ça a été préparé un peu avant, il faut faire cette opération-là?
Alors c'est pour nous une question stratégique qui correspondait à un point qu'on avait déjà anticipé et annoncé au marché, qui était le souhait de développer aux États-Unis. Au départ de l'année, quand on avait une market cap qui était relativement faible, on a privilégié l'option industrielle, donc de le faire via un partenariat. Mais assez rapidement, et grâce à l'évolution du cours de la société et aussi l'intérêt des investisseurs américains, on s'est dit en cours de route qu'il était possible de continuer le développement seul. Donc ça fait partie des deux options qu'on a évaluées tout au long de l'année et qu'on a travaillées. Et à un moment donné, avec l'intérêt de ces investisseurs aux US, on s'est dit que c'était bien plus créateur de valeur d'y aller seul, au moins pour le début, plutôt que de donner toute la valeur dès aujourd'hui à un industriel.
Donc ça, c'est vraiment l'enjeu pour une biotechnologie, pour vous comme pour d'autres, à un moment donné, de savoir si vous avez la capacité seule d'aller au
C'est
bout
ça.
de vos procédures, de vos développements, ou alors d'aller assez vite vers un partenariat industriel.
Oui, souvent les partenariats sont faits par défaut, plus que par envie ou par objectif de création de valeur. À partir du moment où on a le choix de le faire, je pense qu'il faut développer le produit le plus loin possible. C'est la meilleure façon de créer de la valeur.
Alors, les actionnaires, bien sûr, ils s'interrogent forcément, hein, mais ce n'est pas que pour vous, c'est pour toutes les biotechnologies. Quand on voit ce type d'opération, parfois, ils ne comprennent pas. Clairement, ils ne comprennent pas, ils se posent des questions, ils disent, encore une fois, une opération, une augmentation de capital, pourquoi faire rentrer ce gros investisseur américain? Nous, les petits, quelque part, on n'est pas entendus. Qu'est-ce que vous leur répondez justement sur cette question-là?
Je pense que pour structurer le capital de la société et ouvrir ce capital à des investisseurs américains et faire grandir la société, c'était vraiment une étape importante pour nous de pouvoir amener déjà un premier investisseur. Donc pour nous, c'est une étape clé qui va bénéficier au final à tout le monde. Après, dans l'aspect augmentation de capital, évidemment qu'à chaque fois qu'on fait une augmentation de capital, on a un aspect dilutif, mais on a voulu cette augmentation de capital minime. En tout cas, juste assez pour pouvoir développer ce qu'on voulait, pour justement jouer sur cette balance entre la dilution et la création de valeur.
Alors du côté des indications et ce que vous dites bah, effectivement aujourd'hui on pourra nous pour votre médicament phare peut-être proposer de nouvelles indications à fort potentiel. Donc ce qui se passe en Europe aujourd'hui servira pour futur développement américain.
Oui, on est toujours focalisé, comme on l'a dit, sur le développement en Europe de notre premier produit sur le sarcome des tissus mous, puisqu'on sait que la mise sur le marché de ce produit va vraiment établir la valeur du produit d'un point de vue médical et aussi économique. Mais en parallèle, pour faire grandir cette valeur dans le portefeuille, il faut vraiment étendre sur de nouvelles indications. Et au-delà des indications qu'on avait déjà prévues, on a deux axes qui vont se développer, les États-Unis, donc un nouveau territoire à développer, mais aussi des indications fortes comme la prostate et les métastases hépatiques, qui sont des indications avec un nombre de patients gigantesques.
Alors il y a aussi, mais c'est récurrent ça pour vous, vous le connaissez bien, même mieux que moi même, c'est les questions sur les nanoparticules, sur cette technologie. Il y a encore des débats là-dessus. Vous en faites abstraction ou par rapport au développement de votre entreprise?
Non, on participe toujours à ces débats, mais souvent ces débats sont franco-français. Et quand on voit à l'étranger, on a même des facilitations quand on développe des innovations. La FDA sait comment appréhender ce nouveau type d'objet, comme elle l'a fait par le passé pour la biotech. Donc on a plutôt une bonne réceptivité de nos développements.
Alors peut-être qu'aux États-Unis, justement, la FDA n'a pas la même vision, ou en tout cas sur le dispositif thérapeutique, j'ai pu vous lire ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va être plus compliqué pour vous aux États-Unis qu'en Europe?
Alors c'est vrai que la FDA a considéré notre produit comme un médicament, alors qu'en Europe on est considéré comme un dispositif médical, mais au final ça ne change pas les fondamentaux du développement. C'est la nature du produit qui va vous demander combien de patients il vous faut pour démontrer l'efficacité d'un produit et sa sécurité, plutôt que le statut réglementaire de ce produit. Donc on a développé nos protocoles cliniques pour qu'ils soient compatibles avec l'ensemble des statuts.
Pour vous, vous avez redonné hein, quelque part un nouveau schéma de développement avec les différentes étapes. Ce nouveau schéma, pour vous, il montre une accélération, il montre une confirmation de ce que vous avez dit jusqu'à présent.
Je pense qu'il montre une confirmation plus un élargissement du développement en termes de territoire et d'indication.
Du côté justement, on a parlé des États-Unis, de l'Europe, l'accord en Asie-Pacifique, là il y a un accord avec PharmaEngine, ça va continuer ce type, effectivement, ce type d'accord?
Oui, ça fait partie des éléments accélérateurs qu'on a eu cette année, où à la suite des résultats qu'on a eus sur le sarcome des tissus mous et qu'on a présenté à l'ASCO, PharmaEngine a décidé de rejoindre notre phase de développement finale pour pouvoir aussi en parallèle développer en Asie ce produit.
Donc pour vous, aujourd'hui, l'industrie devrait se focaliser sur quoi? Sur un pipeline de nouvelles, de confirmations?
Oui, enfin on peut avant ça peut-être dire que quand on voit les développements qui ont été faits cette année, tout a été fait dans le respect de dans notre plan et on a même accéléré un grand nombre de choses. On a juste un petit bémol, c'est sur la vitesse de recrutement qu'on a eue pour les cancers tête et cou, qui nous oblige à dépasser ou à déplacer un petit peu la date de publication de résultats. Mais pour accélérer le recrutement, on a ouvert des nouveaux centres en Espagne, ce qui va nous permettre dans très peu de temps, de pouvoir communiquer sur ce sujet. Et pour les autres événements qui vont avoir lieu, donc on est focalisé, comme je vous l'ai dit, sur le développement du premier produit sur le sarcome en Europe. Donc il y aura des événements qui vont ponctuer l'année prochaine et celle d'après sur ce développement, et le démarrage d'un certain nombre d'essais cliniques et les résultats aussi sur le cancer tête et cou.
Donc pour vous, clairement, c'est cette idée de augmenter la valeur potentielle de ce, donc pour les spécialistes NBTX R3, c'est vraiment ça.
Oui, quand on a les moyens de le faire, ce serait aberrant de prendre une autre voie.
Donc ça veut dire un peu de patience pour les actionnaires, hein, ou une nouvelle patience supplémentaire pour les actionnaires qui vous suivent.
Ben, on reste sur les mêmes timings en termes de mise sur le marché, donc il n'y a pas de patience supplémentaire à avoir. Ce qu'on propose là, c'est un plan qui est beaucoup plus large en termes de création de valeur.
Alors, une nouvelle levée de fonds, est-ce que aujourd'hui elle vous permet d'aller justement jusqu'au bout de, c'est-à-dire horizon 2018 par exemple, comme le disent certains brokers, où vous dites peut-être qu'on aura besoin à un moment donné encore de lever des fonds?
Alors, sans revenus complémentaires, ce qui devrait arriver à travers PharmaEngine et les milestone payments, cette nouvelle levée de fonds, au moins la première tranche, nous permet d'aller jusqu'au marquage chez eux en Europe et d'étendre les indications. Après, comme vous l'avez vu, dans la structuration de ce deal, il y a deux autres tranches potentielles supplémentaires qui, là, nous donneraient de la visibilité au-delà de fin 2016.
Eh bien, merci d'avoir fait le point avec nous
Merci.
aujourd'hui, Laurent Lévy.